Chapitre 9. Un jour, sur la jetée, je rencontrai une jeune fille qu'un vieux monsieur accompagnait. Grande, svelte, elle semblait jolie sous le voile de gaze blanche qui lui couvrait le visage, et dont les bouts noués derrière le chapeau de feutre gris flottaient dans le vent. Ses mouvements, souples et gracieux, rappelaient ceux de Juliette. Vraiment, dans le port de la tête, dans la courbure délicate de la taille, dans la tombée des bras, dans le balancement aérien de la robe, je retrouvais un peu de Juliette. Je la regardais avec émotion et deux larmes roulèrent sur ma joue. Elle alla jusqu'à l'extrémité du môle. Moi, je m'étais assis sur le parapet, suivant la silhouette de la jeune fille, pensif et charmé. À mesure qu'elle s'éloignait, je m'attendrissais. Pourquoi ne l'avais-je pas connue plus tôt, avant l'autre? Je l'aurais aimée peut-être. Une jeune fille qui jamais l'a sentie souffler sur elle l'haleine empestée des hommes, dont les oreilles sont chastes, dont les lèvres ignorent les sales baisers. Que ce serait délicieux de l'aimer ainsi qu'aime les anges. Le voile blanc battait au-dessus d'elle, semblable aux ailes d'une mouette. Et tout à coup, derrière le phare, elle disparut. Au bas de la jetée, la mer remuait comme un berceau d'enfant qu'une nourrice en chantant bercerait, et le ciel était sans nuages. Il s'épandait sur la surface immobile des flots, pareil à un grand voile traînant de mousseline claire. La jeune fille ne tarda pas à revenir, passa si près de moi que sa robe me frôla presque. Elle était blonde. Oh, je l'eusse préférée brune, comme était Juliette. Elle s'éloigna, quitta la jetée, prit le chemin du village, et bientôt je ne vis plus que le voile blanc qui me disait « Adieu, adieu, ne sois plus triste, je reviendrai. » Le soir, je m'informai auprès de la mère Le Ganec. « Oh, c'est la demoiselle de l'art du deck, » me répondit-elle. « Une bien brave enfant et bien méritante, notre mintier. Oh, le vieux monsieur, c'est son père. Ils habitent ce grand château sur la route de Saint-Jean. Vous savez, vous y avez été bien des fois. Mais comment se fait-il que je ne les ai jamais vus? Oh, Jésus! C'est que le père est toujours malade et que la demoiselle reste à le soigner, la pauvre petite. Sans doute qu'il va mieux aujourd'hui, elle le promène un peu. Elle n'a plus sa mère. Oh non, elle a déjà bien longtemps qu'elle est morte. Ils sont riches, riches au poireton, et ça donne à tout le monde. Oh, si seulement vous ayez le dimanche à la messe, notre Mathieu, vous la verriez, la bonne demoiselle. Ce soir-là, je m'attardai à causer avec la mère Le Ganec. Plusieurs fois, je la revis, la bonne demoiselle, sur la jetée, et ces jours-là, la pensée de Juliette me fut moins lourde. Je rôdais autour du château, qui me paraît aussi désolé que le prieuré. L'herbe poussait dans la cour, les pelouses étaient mal entretenues, les allées du parc défoncées par les charrettes pesantes de la ferme voisine. La façade de pierre grise, écaillée par le temps, verdie par la pluie, était aussi triste que les gros blocs de granit qu'on voit dans les landes. Le dimanche suivant, j'allai à la messe et j'aperçus la demoiselle de Landudec parmi les paysans et les marins qui priaient. Agenouillée sur son prie-dieu, le corps mince incliné comme celui des vierges primitives, la tête penchée sur un livre, elle priait avec ferveur. Qui sait? Elle avait peut-être compris que j'étais malheureux et peut-être me mêlait-elle à ses prières. Et tandis que le prêtre chevrotait des oraisons, tandis que la nef de l'église s'emplissait du bruit des sabots sur les dalles et du chuchotement des lèvres pieuses, tandis que l'encens des encensoirs montait vers la voûte, avec la voix grêle des enfants de cœur, tandis que la jeune fille priait comme eût prié Juliette, si Juliette avait prié, je rêvais. J'étais dans un parc et la jeune fille s'avançait vers moi, toute baignée de lune. Elle me prenait par la main et nous marchions sur les pelouses et sous les arbres qui chantaient. Jean, me dit-elle, vous souffrez, je viens à vous. J'ai demandé à Dieu si je pouvais vous aimer, Dieu me l'a permis. Je t'aime. Vous êtes trop belle, trop pure, trop sainte pour m'aimer. Il ne faut pas m'aimer. Je t'aime. Penche ton bras sur le mien, appuie ta tête sur mon épaule et allons ainsi toujours. Non, non, non. Est-ce que l'hirondelle peut aimer le hibou? Est-ce que la colombe qui vole dans le ciel peut aimer le crapaud qui se cache dans la bourbe des eaux croupies? Mais tu n'es pas le hibou et tu n'es pas le crapaud puisque je t'ai choisi. L'amour que Dieu permet efface tous les péchés et console de toutes les douleurs. Viens avec moi, je te rendrai ta pureté. Viens avec moi, je te donnerai le bonheur. Non, 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 mon cœur est gangrené et mes lèvres ont bu le poison qui tue les âmes, le poison qui damne les vierges comme toi. Ne t'approche pas ainsi, je te flétrirai. Ne me regarde pas ainsi, tes yeux te saliraient, ou tu serais pareil à Juliette. La messe était finie, la vision s'évanouit. Il se fit dans l'église un grand bruit de chaises remuées et de pas lourds, et les enfants de chœur éteignirent les cierges de l'autel. Toujours agenouillée, la jeune fille priait. De son visage, je ne distinguais qu'un profil perdu dans l'ombre douce de la voilette blanche. Elle se leva, après s'être signée. Je dus écarter ma chaise pour la laisser passer. Elle passa, et j'éprouvais une véritable satisfaction, comme si en refusant l'amour que la jeune fille m'offrait en rêve, je venais d'accomplir un grand devoir. Elle m'occupa une semaine. J'avais recommencé mes courses acharnées dans les landes, sur les grèves, et je voulais guérir. Pendant que je marchais, excité par le vent, emporté dans cette ivresse particulière que vous donne la pluie fouettant des rivages, j'imaginais des conversations romanesques avec la demoiselle de Landudec, des aventures nocturnes qui se déroulaient en des paysages féeriques et lunaires. Tous deux, comme des personnages d'opéra, nous lusions de pensées sublimes, de sacrifices héroïques, de dévouements prodigieux. Nous reculions sur des rythmes passionnés, des ritournelles émouvantes, les bornes de l'abnégation humaine. Un orchestre sanglotant se mêlait au déchirement de nos voix. Je t'aime, je t'aime. Non, non, il ne faut pas m'aimer. Elle, en robe blanche, très longue, les yeux égarés, les bras tendus. Moi, sombre, fatal, les mollets houlants sous le maillot de soie, violette, les cheveux en coup de vent. Je t'aime, je t'aime. Non, non, il ne faut pas m'aimer. Et les violons avaient des plaintes inouïes, les hautbois gémissaient, tandis que les contrebasses et les tympanons grondaient comme des vents d'orage et des roulements de tonnerre. Ô cabotinisme de la douleur! Chose curieuse, la demoiselle de Landudec et Juliette ne faisaient plus qu'une. Je ne les séparais plus. Je les confondais dans le même rêve extravagant et mélodramatique. Elles étaient trop pures pour moi, toutes les deux. Non, non, je suis un lépreux, laissez-moi. Elles s'acharnaient à baiser mes plaies, parlaient de mourir, criaient « Je t'aime, je t'aime ». Et vaincu, dompté, racheté par l'amour, je tombais à leurs pieds. Le vieux père, mourant, étendait les mains sur nous et nous bénissait tous les trois. Cette folie dura peu et bientôt je me retrouvais sur la dune, face à face avec Juliette. Oh Juliette, Juliette! Il n'y avait plus de violon, plus de hautbois. Il n'y avait qu'un hurlement de douleur et de révolte, le cri du fauve captif qui réclame sa proie. Juliette, Juliette! Un soir, plus énervé que jamais, je rentrais, le cerveau hanté de folies sombres, les bras et les mains en quelque sorte poussés par des rages de tuer, d'étouffer. J'aurais voulu sentir, sous la pression de mes doigts, des existences se tordre, râler et mourir. La mère Lecanec était sur le pas de la porte, inquiète, tricotant son éternel paire de bas. Elle me dit: Comme vous êtes en retard, notre maîtier, aujourd'hui, je vous ai préparé une belle écrevisse de mer. Oh, fichez-moi la paix, vieille radoteuse, criai-je. J'en veux pas de votre écrevisse de mer, je veux rien, entendez-vous? Et bredouillant des paroles de colère, brutalement, je m'obligeai à se déranger pour me laisser passer. La pauvre bonne femme, stupéfaite, levait les bras au ciel, geignait: Oh, ma douée, oh, mais Jésus! Je gagnai ma chambre où je m'enfermai. D'abord, je me roulai sur le lit, brisai deux chaises, me cognai le front contre les murs, et tout d'un coup, je me mis à écrire à Juliette une lettre exaltée, folle, remplie de menaces terribles et d'humbles supplications. Une lettre dans laquelle, en phrases incohérentes, je parlais de la tuer, de lui pardonner. Je la suppliais de venir avant que je me mourusse, lui décrivant avec des raffinements tragiques un rocher d'où je me jetterais dans la mer. Je la comparais à la dernière des filles de maison publique, et deux lignes plus loin à la Sainte Vierge. Alors plus de 20 fois, je recommençais la lettre, m'emportant, pleurant tour à tour, furieux jusqu'au délire, attendri jusqu'à la pâmoison. À un moment, j'entendis un bruit derrière la porte, comme un grattement de souris. J'allais ouvrir. La mère Leganec était là, tremblante, toute pâle, et qui me regardait de ses bons yeux effarés. Mais que faites-vous ici? M'écriai-je. Pourquoi m'estimez-vous? Allez-vous-en! Notre métier, gémit la sainte femme, notre métier, vous ne franchez pas. Je vois bien que vous êtes malheureux, et je venais voir si je pouvais vous être utile à quelque chose. Eh bien oui, je suis malheureux, là. Est-ce que cela vous regarde? Allez, tenez, portez cette lettre à la poste et laissez-moi tranquille. Pendant 4 jours, je ne sortis pas. La mère Leganec venait dans ma chambre pour faire mon lit et servir mes repas, humble, craintive, redoublant de soins, soupirant: Oh, quel malheur, ma douée, quel malheur! Je comprenais que j'avais mal agi envers elle, qui était si tendre pour moi, et j'aurais voulu lui demander pardon de mes brutalités. Sa coiffe blanche, son châle noir, sa figure triste de vieille mère affligée m'attendrissaient. Mais une sorte de fierté imbécile glaçait l'effusion prête à s'échapper. Elle trottinait autour de moi, résignée, avec un air d'infini, de maternelle commisération, et de temps en temps elle répétait: Oh, quel malheur, ma douée, quel malheur! Le jour finissait. Tandis que la mère Leganec, ayant enlevé le couvert, balayait la chambre, je m'étais accoudé à l'appui de la fenêtre ouverte. Le soleil avait disparu derrière la ligne d'horizon, ne laissant au ciel de sa gloire irradiante qu'une clarté rougeâtre, et la mer tassée, lourde, sans un reflet, se plombait tristement. La nuit arrivait, silencieuse et lente, et l'air était si calme qu'on percevait le bruit rythmique des avirons battant l'eau du port et le cri lointain des drisses au haut des mâts. Je vis le phare s'allumer, son feu rouge tourner dans l'espace comme un astre fou, et je me sentais bien malheureux. Juliette ne me répondait pas. Oh, Juliette ne viendrait pas. Ma lettre, sans doute, l'avait effrayée, elle s'était rappelée les scènes de colère, d'étranglement sauvage. Elle avait eu peur, elle ne viendrait pas. Et puis n'y avait-il pas des courses, des fêtes, des dîners, des files d'hommes impatients à sa porte, qui l'attendait et la réclamait, et qui avait payé d'avance la nuit promise. Pourquoi serait-elle venue d'ailleurs? Pas de casino sur cette grève désolée, et dans ce coin perdu de l'océan, personne à qui elle pût vendre son corps. Moi, elle m'avait tout pris, mon argent, mon cerveau, mon honneur, mon avenir, tout. Que pouvais-je lui donner encore? Rien, alors, pourquoi viendrait-elle? J'aurais dû lui dire qu'il me restait 10 000 francs. Elle serait accourue. À quoi bon? Ah, oh, qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne vienne pas. La colère était calmée et un dégoût de moi-même la remplaçait, un dégoût épouvantable. Mais comment était-il possible qu'en si peu de temps, un homme qui n'était pas méchant, dont les aspirations autrefois ne manquaient ni de fierté ni de noblesse, comment cela était-il possible que cet homme fût tombé si bas dans une boue si épaisse qu'aucune force humaine n'était capable de l'en retirer? Ce dont je souffrais à cette heure, ce n'était pas tant de mes folies, de mes bassesses, de mes crimes, que des malheurs que j'avais causés autour de moi. La vieille Marie, le vieux Félix, oh les pauvres gens, où étaient-ils? Que faisaient-ils? Avaient-ils seulement de quoi manger? Les avais-je pas obligés, en les chassant, à mendier leur pain, eux si vieux, si beaux, si confiants, plus faibles et plus abandonnés que des chiens sans maître? Je les voyais courbés sur des bâtons, affreusement maigres, toussant, harassés, couchant le soir dans des gîtes de hasard. Et cette sainte mère le Lecanec, qui me soignait comme une mère son enfant, qui me berçait de ces tendresses réchauffantes qu'ont les petites gens. Au lieu de m'agenouiller devant elle, de la remercier, ne l'avais-je pas brutalisée, presque battue? Oh non, non, qu'elle ne vienne pas, qu'elle ne vienne pas! La mère Leganec allumait une lampe et je me disposais à refermer la fenêtre quand j'entendis dans le chemin des grelots puis le roulement d'une voiture. Machinalement, je regardais. Une voiture, en effet, montait la rampe très raide à cet endroit, une sorte d'omnibus qui me parut haut et chargé de malles. Un marin passait. Le postillon l'interpella. Hé, la maison de Madame Leganec, s'il vous plaît. C'est là, en face, toi, répondit le manant, qui indiqua la maison d'un geste de la main et continua sa route. J'étais devenu tout pâle. Et je vis, éclairée par la lumière de la lanterne, une petite main gantée se poser sur le bouton de la portière. Juliette! Juliette! M'écriai-je éperdu. Mère Leganec, c'est Juliette! Vite, vite, c'est Juliette! Courant, dégringolant l'escalier, je me précipitais dans la rue. Juliette! Ma Juliette! Des bras m'enlacèrent, des lèvres se collèrent à ma joue, une voix soupira: Jean, mon petit Jean! Et je défaillis dans les bras de Juliette. Je ne tardai pas à revenir de mon évanouissement. On m'avait couché sur le lit et Juliette, penchée sur moi, m'embrassait, m'appelait, pleurait. Ma pauvre mignon, oh comme tu m'as fait peur, comme tu es blanc encore! C'est fini, dis, parle-moi, mon Jean. Sans rien dire, je la contemplais. Il me semblait que tout mon être, inerte et glacé, détruit d'un coup par une grande souffrance ou par un grand bonheur, je ne savais, refoulait dans mon regard la vie qui s'en allait, dégoûtait de mes membres, de mes veines, de mon cœur, de mon cerveau. Je la contemplais. Elle était toujours belle, un peu plus pâle encore qu'autrefois, et je la retrouvais toute, avec ses yeux brillants et doux, sa bouche aimante, sa voix délicieusement enfantine, au timbre clair. Je cherchais sur son visage, dans ses gestes, dans l'habitude de son corps, dans ses paroles, je cherchais les traces douloureuses de son existence inconnue, une flétrissure, une déformation, quelque chose de nouveau et de plus fané. Non, en vérité, elle est un peu plus pâle, et voilà tout. Je fondis en larmes. Encore que je te vois, ma petite Juliette. Elle buvait mes larmes, pleurait aussi, me tenait embrassée. Mon Jean, oh mon Jean adoré! La mère Leganec vint frapper à la porte de la chambre. Elle ne s'adressa pas à Juliette, affecta même de ne pas la regarder. Qu'est-ce qu'il faut faire des mâles, notre mientier? Demanda-t-elle. Il faut les faire monter, mère Leganec. On ne peut pas monter toutes ces mâles ici, répliqua durement la vieille femme. Tu en as donc beaucoup, ma chérie? Beaucoup, mais non, il y en a six. Ces gens sont stupides. Eh bien, mère Leganec, dis-je, garde-les en bas pour ce soir. Nous verrons demain. Je m'étais levé et Juliette furetait dans la chambre, s'exclamait à chaque instant. Mais c'est gentil ici, c'est drôle tout plein, mon chéri. Et puis toi, un lit, un vrai lit. Moi qui croyais qu'on couchait dans des armoires en Bretagne. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ne bouge pas, Jean, ne bouge pas. Elle avait pris sur la cheminée un gros coquillage, l'appliquait contre son oreille. Tiens, disait-elle désappointée, tiens, ça ne fait pas chut dans les coquillages. Pourquoi, dit? Puis brusquement, elle se jetait dans mes bras, me couvrait de baisers. Oh, ta barbe! Ah, tu laisses pousser ta barbe, vilain! Et comme tes cheveux sont longs, et comme tu m'as maigri! Est-ce que je suis changée, moi? Est-ce que je suis belle autant? Nouant ses mains autour de mon cou, penchant sa tête sur mon épaule. Raconte ce que tu fais ici, comment tu passes tes journées, à quoi tu penses. Raconte à ta petite femme, et ne mens pas, dis-lui bien tout, tout, tout. Alors je lui parlais de mes marches acharnées, de mes abattements sur la dune, de mes sanglots, d'elle que je voyais sans cesse, d'elle que j'appelais comme un fou dans le vent, dans la tempête. Pauvre petit, soupirait-elle, je parie que tu n'as pas même un caoutchouc. Et toi, ma Juliette, as-tu pensé à moi seulement? Ah, moi, quand je ne t'ai plus trouvé à la maison, j'ai cru que j'allais mourir. Mais Célestine m'avait dit qu'un homme était venu te prendre. J'ai tout de même attendu. Il rentrera, et tu ne rentrais pas. Et j'ai couru chez Lyra le lendemain. Ah, si tu savais comme il m'a reçu, comme il m'a traité. Je demandais à tout le monde, mais savez-vous, et Jean? Et personne ne pouvait me répondre. Oh méchant, partir comme ça, sans un mot. Tu ne m'aimais donc plus. Alors tu comprends, j'ai voulu m'étourdir, je souffrais trop. Sa voix prit une intonation brève. Quant à Lyra, sois tranquille, mon chéri, je me vengerai de lui. Et tu verras, oh, ce sera farce. Quelle crapule que ton ami Lyra! Mais tu verras, tu verras. Une chose me tourmentait. Combien de jours, de semaines, Juliette passerait-elle avec moi? Elle avait apporté si mal, donc elle avait l'impression de demeurer au bloc un mois au moins, peut-être davantage. Et à la joie si grande de la posséder, sans trouble, sans crainte, se mêlait une vive inquiétude. Je n'avais pas d'argent, et je connaissais trop Juliette pour ne point ignorer qu'elle ne se résignerait pas à vivre comme moi, et je prévoyais les dépenses que je n'étais pas en état de supporter. Or, comment faire? N'osant l'interroger directement, je répondis: Bon, nous avons le temps de songer à cela, ma chérie, dans 3 mois, quand nous rentrons à Paris. Dans 3 mois? Mais mon pauvre mignon, je repars dans 8 jours. Ça m'ennuie tant. Mais reste, ma petite Juliette, je t'en supplie, reste tout à fait, plus longtemps, enfin, 15 jours. Mais c'est impossible, tu comprends. Oh, ne sois pas triste, mon chéri, ne pleure pas. Parce que si tu pleures, je ne te dirai pas une chose, une belle chose. Elle se vit plus tendre encore, se pelotonna contre moi et reprit. Écoute bien, mon chéri, je n'ai qu'une pensée, une seule pensée, vivre avec toi. Nous quitterons Paris, nous nous en irons dans une petite maison, si bien cachée, vois-tu, que personne ne saura plus si nous existons. Seulement, il nous faut 20 000 francs de rente. Mais où donc veux-tu que je les prenne maintenant? M'écriai-je découragé. Mais écoute-moi donc, poursuivit Juliette, il nous faut 20 000 francs de rente. Oh, j'ai tout calculé. Eh bien, dans 6 mois, nous les aurons. Juliette me regarda d'un air mystérieux. Elle répéta, nous les aurons. Oh, je t'en supplie, ma chérie, ne parle pas ainsi. Tu ne sais pas le mal que tu me fais. Juliette éleva la voix, le pli de son front devint dur. Alors, tu aimes mieux que je sois à d'autres toujours? Oh, tais-toi, Juliette, tais-toi. Ne parle jamais comme cela, jamais. Mais tu es drôle. Allons, sois gentil et embrasse-moi. Le lendemain, pendant qu'au milieu des malles ouvertes, des robes étalées partout, elle s'habillait, très déconcertée de l'absence de sa femme de chambre, elle forma une quantité de projets pour la journée. Elle voulait se promener sur la jetée, monter au phare, pêcher, aller à la dune, et s'asseoir à la place où j'avais tant pleuré. Elle se réjouissait d'apercevoir de jolies bretonnes en costume soutaché et brodé, comme au théâtre, et de boire du lait dans des fermes. « Il y a des bateaux ici ?»« Mais oui !»« Beaucoup ?»« Mais oui !»« Ah, quelle chance ! J'aime tant les bateaux !» Puis elle me contait les nouvelles de Paris. « Oh, Gabriel n'était plus avec Robert. Malter se mariait. Gesselin voyageait. Où y avait-tu des duels ?» Et des anecdotes sur tout le monde. Toute cette mauvaise odeur de Paris me ramenait à des mélancolies, à des souvenirs poignants. Me voyant triste, elle s'interrompait, m'embrassait, prenait des airs navrés. « Oh, tu crois peut-être que cette existence me plaît, gémissait-elle, que je ne songe qu'à m'amuser, à être coquette. Si tu savais. Tu comprends, il y a des choses que je ne peux pas te dire. Mais si tu savais quel supplice c'est pour moi. Tu es malheureux, toi, eh bien moi. Tiens, si je n'avais pas l'espoir de vivre avec mon Jean, souvent j'ai tant de dégoût que je me tuerais. » Et rêveuse, câline, elle revenait à ses bergeries, à ses petits sentiers de verdure, au calme de l'existence douce et cachée, avec des fleurs, des bêtes et de l'amour. Oh, de l'amour dévoué, soumis, de l'amour éternel, de l'amour qui nous illuminerait jusqu'à la mort, ainsi qu'un chaud soleil. Nous sortîmes après le déjeuner que la mère Leganec nous servit sévèrement sans desserrer les lèvres une seule fois. À peine dehors, comme la brise fraîchissait et lui défrisait les cheveux, Juliette désira rentrer. « Oh, le vent, mon chéri, le vent, vois-tu, je ne peux pas supporter ça. Il me décoiffe et me rend malade. » Elle s'ennuya toute la journée et nos baisers ne suffirent pas à en remplir le vide. De même qu'autrefois, dans mon cabinet, elle étendit une serviette sur sa robe, sur la serviette posa de menues brosses et des limes et, grave, se mit à lisser ses ongles. Je souffrais cruellement et la vision du vieux homme à la fenêtre m'obsédait. Le jour suivant, Juliette me déclara qu'elle était obligée de partir, le soir même. « Oh, quel malheur, mon chéri! Oh, j'avais oublié! Vite, vite, commande une voiture! Oh, quel malheur !» Je n'essayais pas de la retenir. Affalée sur une chaise, immobile, sombre, la tête dans les mains, j'assistais aux préparatifs du départ, sans prononcer une parole, sans laisser échapper une prière. Juliette allait, venait, pliant ses robes, rangeant son nécessaire, refermant ses malles. Je n'entendais rien, je ne voyais rien, je ne savais rien. Des hommes entrèrent, dont les pas pesants faisaient craquer le plancher. Je compris qu'ils emportaient les malles. Juliette s'assit sur mes genoux. « Mon pauvre chéri, pleurait-elle, cela te fait de la peine que je m'en aille ainsi. Mais il le faut. Sois sage, et puis bientôt je reviendrai, pour longtemps. Ne sois pas ainsi, je reviendrai, je te le promets. J'emmènerai Spi, j'emmènerai un cheval aussi pour me promener. Tu veux pas? Tu verras comme ta petite femme bonde bien. Embrasse-moi donc, mon Jean. Mais pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Jean, voyons. Adieu, je t'adore, adieu. » Il faisait nuit quand la mère Leganec pénétra dans ma chambre. Elle alluma la lampe et doucement s'approcha de moi. « Notre minutier, notre maintier !» Je levai les yeux vers elle. Elle était si triste, il y avait en elle tant de miséricordieuse pitié que je me précipitais dans ses bras. « Ah, mère Leganec !» sanglotai-je. « Et c'est de ça que je meurs, de ça !» Et tendrement la mère Leganec murmura. « Notre maintier, pourquoi que vous priez pas le bon Dieu? Ça vous soulagerait. » Voilà 8 jours que je ne puis dormir. J'ai sur le crâne un casque de fer rougi. Mon sang bout, on dirait que mes artères tendues se rompent, et je sens de grandes flammes qui me lèchent les reins. Ce qui restait d'humain en moi, ce que la douleur morale m'avait laissé sous les ordures entassées de pudeur, de remords, de respect, d'espoir vague, ce qui me rattachait par un lien si faible fut-il à la catégorie des êtres pensants, tout cela a été emporté par une folie de brute forcenée. Je n'ai plus la notion du bien, du vrai, du juste, des lois inflexibles de la nature. Les répulsions sexuelles d'un règne à l'autre qui maintiennent les mondes dans une harmonie constante. Je n'en ai plus conscience. Tout se meut, se confond en une fornication immense et stérile. Et dans le délire de mes sens, je ne rêve que d'impossibles embrassements. Non seulement l'image de Juliette, prostituée, ne m'est plus une torture, elle m'exalte au contraire. Et je la cherche, je la retiens, je tâche de la fixer par d'ineffables traits. Je la mêle aux choses, aux bêtes, aux mythes monstrueux, et moi-même je la conduis à des débauches criminelles, fouettées par des verges de fer. Juliette n'est plus la seule dont l'image me tente et me hante. Gabriel, l'Arabino, la mère, le Ganec, la demoiselle de Landunec, défile toujours devant moi dans des postures infâmes. Ni la vertu, ni la bonté, ni le malheur, ni la vieillesse sainte ne m'arrêtent. Et pour décor de ces épouvantables folies, je choisis de préférence les endroits sacrés et bénis, les autels des églises, les tombes des cimetières. Je ne souffre plus dans mon âme, je ne souffre plus que dans ma chair. Mon âme est morte dans le dernier baiser de Juliette, et je ne suis plus qu'un moule de chair immonde et sensible, dans lequel les démons s'acharnent à verser des coulées de fonte bouillonnante. Ah, je n'avais pas prévu ce châtiment. L'autre jour, sur la grève, j'ai rencontré une pêcheuse de palourde. Elle était noire, sale, puante, semblable à un tas de goémons pourrissants. Je me suis approché d'elle avec des gestes fous, et subitement, je me suis enfui, car j'avais la tentation infernale de me ruer sur ce corps et de le renverser parmi les galets et les flaques d'eau. À travers la campagne, je marche, les narines au vent, flairant comme un chien de chasse des odeurs de femelles. Une nuit, la gorge en feu, le cerveau affolé par des visions abominables, Je m'engage dans les ruelles tortueuses du village, frappe à la porte d'une fille à matelot. Et je suis entré dans ce bouge. Mais sitôt que j'ai senti sur ma peau cette peau inconnue, j'ai poussé un cri de rage. J'ai voulu partir. Elle me retenait. « Oh, laisse-moi » ai-je crié. « Pourquoi t'en vas-tu? Laisse-moi !»« Reste, je t'aimerai. Sur la côte, souvent, je t'ai suivi. Souvent, près de la maison que tu habites, j'ai rôdé. Je voulais de toi. Reste !»« Mais laisse-moi donc, tu vois pas que tu me dégoûtes !» Et comme elle se penchait à mon cou, je l'ai battue. Elle gémissait. « Oh, Madoué, il est fou !»« Fou, oui, je suis fou. » Je me suis regardé dans la glace et j'ai eu peur de moi. Mes yeux agrandis s'effartent au fond de l'orbite qui se creuse. Les os pointent, trouvant ma peau jaunie. Ma bouche est pâle, tremblante. Elle prend, pareil à celle des vieillards lubriques. Mes gestes s'égarent et mes doigts, sans cesse agités de secousses nerveuses, craquent, cherchant des proies dans le vide. Fou, oui, je suis fou. Lorsque la mère Le Ganec tourne autour de moi, lorsque j'entends glisser ses chaussons sur le plancher, lorsque sa robe me frôle, des pensées de crime me viennent, m'obsèdent, me talonnent et je crie. « Allez-vous-en, mère Le Ganec, allez-vous-en. Fou, oui, je suis fou. » Souvent, la nuit, je passais des heures à la porte de sa chambre, la main sur la clé de la serrure, prêt à me précipiter dans l'ombre. Et je ne sais pas ce qui m'a retenu. La peur, sans doute. Car je me disais, elle se débattra, criera, appellera, et je serai forcé de la tuer. Une fois, surprise par le bruit, elle s'est levée. Me voyant en chemise, les jambes nues, elle est restée un moment stupéfaite. « Comment, c'est vous notre métier? Qu'est-ce que vous faites ici? Êtes-vous malade ?» J'ai balbutié des mots incohérents et je suis remonté. Ah, que l'on me chasse, que l'on me traque, que l'on me poursuive avec des fourches, des pieux et des faux, comme on fait la chance enragée. Est-ce que des hommes n'entreront pas là tout à l'heure, qui se jetteront sur moi, me bâillonneront et m'emporteront dans l'éternelle nuit du cabanon? Il faut que je parte, il faut que je retrouve Juliette, il faut que j'épuise sur elle cette rage maudite. Quand l'aube paraîtra, je descendrai, je dirai à la mère Le Ganec, « Mère Le Ganec, il faut que je parte. Donnez-moi de l'argent, je vous le rendrai plus tard. Donnez-moi de l'argent, il faut que je parte. » Juliette m'avait choisi dans le faubourg Saint-Honoré, tout près de la rue de Balzac, une chambre au second étage d'un petit hôtel meublé. Les meubles étaient de guingois, les tapisseries, les tiroirs s'ouvraient en grinçant. Une odeur aigre de bois suri, de poussière ancienne, imprégnait les rideaux des fenêtres et les draperies du lit. Mais elle avait su donner, en plaçant çà et là quelques bibelots, un aspect plus intime à cette pièce banale et froide où tant d'existences inconnues avaient passé sans laisser de trace aucune. Juliette avait tenu aussi à ranger elle-même mes affaires dans l'armoire qu'elle bourrait de paquets d'iris. « Tu vois, mon chéri, ici les chaussettes, là les chemises de nuit. Alors j'ai mis tes cravates dans le tiroir. Tes mouchoirs sont là. J'espère qu'elle a de l'or dans ta petite femme, hein ? Et puis tous les jours, je te porterai une fleur qui sent bon. Allons, ne sois pas triste. Dis-toi bien que je t'aime, que je n'aime que toi, que je viendrai souvent. Ah, tes caleçons que j'ai oubliés. Je te les enverrai par Célestine, avec ma photographie, dans le beau cadre en peluche rouge. Ne t'ennuie pas, pauvre mignon. Tu sais, si ce soir à minuit et demi je ne suis pas là, ne m'attends pas. Couche-toi, dors bien, tu me promets. et jetant un dernier coup d'œil sur la chambre, elle était partie. Tous les jours, en effet, Juliette revenait en allant au bois et en rentrant chez elle avant le dîner. Elle ne restait que 2 minutes, fiévreuse, agitée par une hâte d'être dehors, le temps de m'embrasser, le temps d'ouvrir l'armoire pour se rendre compte si les choses étaient dans le même ordre. « Allons, je m'en vais, ne sois pas triste. Oh, je vois que tu as encore pleuré. C'est pas gentil. Pourquoi me fais-tu de la peine ?»« Juliette, te verrai-je ce soir? Oh, je t'en prie, ce soir. »«
Ce soir ?»
Elle réfléchissait un instant.
« Ce soir, oui, mon chéri, oui. Enfin, ne m'attends pas trop. Couche-toi, dors bien. Surtout, ne pleure pas, tu me désespères. Vraiment, on ne sait pas comment être avec toi. »
Et je vivais là, vautré sur le canapé, ne sortant presque jamais, comptant les minutes qui, lentement, lentement, goutte à goutte, tombaient dans l'éternité de l'attente. À l'exaltation furieuse de mes sens avait succédé un grand accablement. Je demeurais des après-midi entiers, sans bouger, la chair battue, les membres pesants, le cerveau engourdi comme au lendemain d'une ivresse. Ma vie ressemblait à un sommeil lourd que traversent des rêves pénibles, coupés par de brusques réveils, plus pénibles encore que les rêves, et dans l'anéantissement de ma volonté, dans l'effacement de mon intelligence, je ressentais plus vive encore l'horreur de ma déchéance morale. Avec cela, la vie de Juliette me jetait dans des angoisses perpétuelles. Comme autrefois, sur la dune du Ploc, il ne m'était pas possible de chasser l'image de boue qui grandissait, devenait plus nette, et revêtait des formes plus cruelles. Perdre un être qu'on aime, un être de qui toutes vos joies vous sont venues, dont le souvenir ne se mêle qu'à des souvenirs de bonheur, mais cela vous est une douleur déchirante. Mais où il y a une douleur, il y a aussi une consolation, et la souffrance s'endort en quelque sorte, bercée par sa tendresse même. Et moi, je perdais Juliette. Je la perdais chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et à ces morts successives, à ces morts impénitentes, je ne pouvais rattacher que des souvenirs suppliciants et des souillures. J'avais beau chercher sur la vase remuée de nos deux cœurs une fleur, une toute petite fleur, dont il eût été si bon de respirer le parfum, je ne la trouvais pas. Et cependant, je ne concevais rien sans Juliette. Toutes mes pensées avaient Juliette pour point de départ, Juliette pour aboutissement. Et plus elle m'échappait, plus je m'acharnais dans l'idée absurde de la reconquérir. Je n'espérais pas, emportée comme elle l'était dans cette existence de plaisirs mauvais, qu'elle s'arrêtât jamais. Et pourtant, malgré moi, malgré elle, je formais des projets d'avenir meilleurs. Je me disais, bon, il n'est pas possible qu'un jour le dégoût ne la prenne, qu'un jour la douleur n'éveille en son âme un remords, une pitié, et elle me reviendra. Alors nous nous en irons dans un appartement d'ouvrier, et moi, comme un forçat, je travaillerai. J'entrerai dans le journalisme, je publierai des romans, j'implorerai des besognes de copistes. Hélas! Je m'efforçais de croire à tout cela afin d'atténuer l'état d'abjection où j'étais descendu. Avec le produit de la vente des 2 études de l'IRA, des quelques bijoux que je possédais dans mes livres, j'avais réalisé une somme de 4 000 francs que je gardais précieusement pour cette chimérique éventualité. Une fois que Juliette était songeuse et plus tendre qu'à l'ordinaire, j'osais lui communiquer ce projet admirable. Elle battit des mains. « Oui, oui, oh, ce serait si amusant. Un tout petit appartement, tout petit, tout petit. Je ferai le ménage, j'aurai de jolis bonnets, un joli tablier. Mais c'est impossible avec toi, quel dommage. C'est impossible. »
Mais pourquoi donc est-ce impossible? Mais parce que tu ne travailleras pas et que nous mourrons de faim. C'est ta nature comme ça. As-tu travaillé au bloc? Travailleras-tu maintenant? Jamais tu n'as travaillé.
Le puis-je? Mais tu ne sais donc pas que ta pensée ne me guide plus un seul instant. C'est tout l'inconnu de ta vie. C'est la douleur atroce de ce que je sens, de ce que je devine de toi, qui me ronge, qui me dévore, qui me vide les moelles. Quand tu n'es pas là, j'ignore où tu es, et pourtant je suis là, où tu es, toujours. Oh, si tu voulais te savoir près de moi, aimante et tranquille, loin de ce qui salit et de ce qui torture. Mais j'aurais la force d'un dieu, de l'argent. De l'argent, mais je t'en gagnerai par pelletée, par tombereau. Oh, Juliette, si tu voulais, si tu voulais. Elle me regardait, excitée par ce grand bruit d'or que mes paroles faisaient tinter à ses oreilles. Eh bien, gagne-en tout de suite, mon chéri. Oui, beaucoup, des tas. Et ne pense pas à ces vilaines choses qui te font du mal. Les hommes, est-ce drôle? Ça ne veut pas comprendre. Tendrement, elle s'assit sur mes genoux. Mais puisque je t'adore, mon cher mignon, puisque les autres, je les déteste, et qu'ils n'ont rien de moi, tu n'entends rien, puisque je suis bien malheureuse. Et les yeux pleins de larmes, elle cherchait à se faire toute petite contre moi, et répétait, oh oui, bien, bien malheureuse. J'en avais horreur et pitié. Ah, il croit que c'est par plaisir, s'écria-t-elle en sanglotant. Il croit cela. Mais si je n'avais pas mon Jean pour me consoler, mon Jean pour me bercer, mon Jean pour me donner du courage, je ne pourrais plus. Je ne pourrais plus, j'aimerais mieux mourir. Brusquement, changeant d'idée et d'une voix où il me sembla entendre les regrets gémir. Mais d'abord, oui, pour ça, pour le petit appartement, il faudrait de l'argent, et tu n'en as pas. Mais si, ma chérie, mais si, clamai-je triomphalement, j'ai de l'argent. Nous avons de quoi vivre 2 mois, 3 mois, en attendant que je conquière une fortune. Tu as de l'argent? Fais voir. J'étalai devant elle les 4 billets de 1 000 francs. Juliette les saisit dans sa main, un à un, âprement, les compta, les examina. Ses yeux luisaient, étonnés, charmés. 4 000 francs, mon chéri? Comment, tu as 4 000 francs? Mais tu es riche! Alors? Elle se pendit à mon cou, caressante. Alors, reprit-elle, puisque tu es très riche, j'ai envie d'un petit nécessaire de voyage que j'ai vu rue de la Paix. Oh, tu veux me l'acheter, mon chéri, tu veux, pas? Je reçus au cœur un coup si douloureux que je faillis tomber sur le plancher. Et un flot de larmes m'aveugla. Pourtant, j'eus le courage de demander. Et qu'est-ce qu'il vaut, ton nécessaire? 2 000 francs, mon chéri. Très bien, allez, prends 2 000 francs, tu l'achèteras toi-même. Juliette me baisa au front, prit 2 billets qu'elle enfouit précipitamment dans la poche de son manteau, et son regard, attaché sur les 2 qui restaient, et qu'elle regrettait sans doute de ne pas m'avoir demandé, elle dit « Vrai? Tu veux bien? Ah, oh, c'est gentil. Cela fait que si que tu retournes au bloc, j'irai te voir avec mon nécessaire tout neuf. » Quand elle fut partie, je m'abandonnai à une violente colère contre elle, et contre moi surtout. Et la colère apaisée, tout d'un coup, je m'étonnais de ne plus souffrir. Oui, en vérité, je respirais plus librement. J'étendais les bras avec des gestes forts. J'avais dans les jarrets une élasticité nouvelle. Enfin, on eût dit que quelqu'un venait de m'enlever le poids écrasant que je portais depuis si longtemps sur les épaules. J'éprouvais une joie très vive à détendre mes membres, à faire jouer mes articulations, à étirer mes nerfs, ainsi qu'il arrive le matin au saut du lit.
Ne me réveillais-je pas, en effet, d'un sommeil aussi pesant que la mort? Ne sortais-je pas d'une sorte de catalepsie, où tout mon être engourdi avait connu les cauchemars horribles du néant? J'étais comme un enseveli qui retrouve la lumière, comme un affamé à qui on donne un morceau de pain, comme un condamné à mort qui reçoit sa grâce. J'allais à la fenêtre et regardais dans la rue. Le soleil coupait d'un angle doré les maisons en face de moi. Sur le trottoir, des gens passaient vite, affairés, avec des figures heureuses. Des voitures se croisaient sur la chaussée, joyeusement. Le mouvement, l'activité, le bruit de la vie me grisaient, m'enthousiasmaient, m'attendrissaient. Et je m'écriais « Je ne l'aime plus !» Je ne l'aime plus! Dans l'espace d'une seconde, j'eus la vision très nette d'une existence nouvelle de travail et de bonheur. Me laver de cette boue, reprendre le rêve interrompu, j'en avais hâte. Non seulement je voulais racheter mon honneur, mais je voulais conquérir la gloire et la conquérir si grande, si incontestée, si universelle, que Juliette creva de dépit d'avoir perdu un homme tel que moi. Je me voyais déjà dans la postérité, en bronze, en marbre, hissé sur des colonnes et des piédestaux symboliques, emplissant les siècles futurs de mon image immortalisée. Et ce qui me réjouissait surtout, c'était de penser que Juliette n'aurait pas une parcelle de gloire et que je la repousserais impitoyablement hors de mon soleil. Je descendis et, pour la première fois depuis plus de 2 ans, je ressentis un plaisir délicieux à me trouver dans la rue. Je marchais rapidement, les reins souples, l'allure victorieuse, intéressé par les spectacles les plus simples qui me semblèrent nouveaux. Et je me demandais avec stupeur comment j'avais pu être malheureux aussi longtemps, comment mes yeux ne s'étaient pas ouverts plus vite à la vérité. Ah, la méprisable Juliette! Comme elle avait dû rire de mes soumissions, de mes aveuglements, de mes pitiés, de mes inconcevables folies. Sans doute, elle racontait à ses amants de hasard mes douloureurs imbéciles, et ils s'excitaient à l'amour en se moquant de moi. Mais j'aurai ma revanche, et cette revanche serait terrible. Bientôt Juliette se roulerait à mes pieds, suppliante, et implorerait son pardon. « Non, non, misérable, jamais. Quand j'ai pleuré, m'as-tu consolé? M'as-tu épargné une souffrance, une seule? Un seul instant as-tu consenti à accepter ma misère, à vivre de ma vie? Tu n'es pas digne de partager ma gloire. Non, va-t'en. » Et pour lui marquer mon mépris irrémédiablement, je lui jetterai des millions à la figure. « Tiens, des millions! En veux-tu des millions? Tiens, encore !» Juliette se tordra les bras de désespoir, elle criera « Pitié, Jean, pitié! Oh, de l'argent, je n'en veux pas. Ce que je veux, c'est vivre cachée, toute petite, dans ton ombre, heureuse, si un seul des rayons de la lumière qui t'entoure vient un jour se poser sur ta pauvre Juliette. Pitié! As-tu eu pitié de moi quand je t'ai demandé grâce? Non! Les filles comme toi, on les assomme à coups d'or. Tiens, en voilà encore! Tiens, en voilà toujours! » Je marchais à grande enjambée, parlant tout haut, faisant avec la main le geste de jeter des millions à travers l'espace. Tiens, misérable, tiens! Pourtant, mon impassibilité devant la pensée de Juliette n'était point si farouche que la moindre femme aperçue ne me donna une inquiétude, et que je le sondasse d'un coup d'œil impatient l'intérieur des voitures qui sans cesse passaient dans la rue. Sur le boulevard, mon assurance tomba, et l'angoisse me ressaisit tout entier. De nouveau, je sentis une pesanteur intolérable sur mes épaules, et la bête dévorante, un instant chassée, s'abattit sur moi, plus féroce, enfonçant plus profondément ses griffes dans ma chair. Il avait suffi pour cela que je visse des théâtres, des restaurants, ces endroits maudits, pleins du mystère de la vie de Juliette. Les théâtres me disaient: Oh, cette nuit elle était là, ta Juliette. Pendant que tu gémissais, l'appelant, l'attendant, elle se pavanait dans une loge, des fleurs au corsage, heureuse, sans une pensée pour toi. Les restaurants me disaient: Cette nuit elle était là, ta Juliette. Les yeux ivres de débauche, elle s'est vautrée sur nos divans disloqués, et des hommes qui puaient le vin et le cigare l'ont possédée. Et tous les jeunes gens que je rencontrais, fringants, superbes, me disaient aussi: Oh, ta Juliette, nous la connaissons. Est-ce qu'elle t'apporte un peu de l'argent qu'elle nous coûte? Chaque maison, chaque objet, chaque manifestation de la vie, tout me criait avec d'affreux ricanements: Juliette, oh Juliette! La vue des roses chez les fleuristes était une torture, et j'éprouvais des rages rien qu'à regarder les boutiques et leurs étalages de choses provocantes. Il me semblait que Paris ne dépensait toute sa force, n'usait toute sa séduction que pour me ravir Juliette, et je souhaitais de la voir disparaître dans une catastrophe, et je regrettais l'étang justicier de la commune où l'on versait dans les rues le pétrole et la mort. Je rentrais. « Il n'est venu personne ?» demandai-je au concierge. « Personne, monsieur Mintier. »« Pas de lettre non plus ?»« Non, monsieur Mintier. » »« Vous êtes sûr qu'on n'est pas monté chez moi pendant mon absence ?»« Oh, la clé n'a pas bougé de là, monsieur Mintier. » Je griffonnais sur ma carte ces mots au crayon: « Je veux te voir. » Portez cela rue de Balzac. J'attendis dans la rue, impatient, nerveux. Le concierge ne tarda pas à reparaître. La bonne m'a dit que madame n'était pas encore rentrée. Il était 7 heures. Je gagnai ma chambre et je m'allongeai sur le canapé. Mais elle ne viendra pas. Mais où est-elle? Mais que fait-elle? Je n'avais pas allumé de bougie. Les fenêtres, éclairées par les lumières de la rue, glissaient dans la pièce un jour sombre, projetaient sur le plafond une clarté jaune où l'ombre des rideaux se dessinait et tremblait. Et les heures s'écoulèrent, lentes, infinies, si infinies et si lentes qu'on eût dit que le temps, subitement, avait cessé de marcher. Elle ne viendra pas. De la rue m'arrivait le bruit ininterrompu des voitures. Les omnibus roulaient lourdement, les fiacres fatigués ferraillaient, les coupés passaient, plus légers, plus rapides. Quand l'un d'eux rasait le trottoir ou ralentissait son allure, je me précipitais à la fenêtre que j'avais laissée entr'ouverte et je me penchais vers la rue. Aucun ne s'arrêtait. « Elle ne viendra pas !» Et tout en disant « Elle ne viendra pas !» J'espérais bien que Juliette serait là dans quelques minutes. Que de fois je m'étais roulé sur le canapé en criant « Elle ne viendra pas !» et Juliette était venue. Toujours au moment où je désespérais le plus, j'entendais une voiture s'arrêter, puis des pas dans l'escalier, puis un craquement dans le couloir, et Juliette apparaissait, souriante, empanachée, emplissant la chambre d'un parfum violent et d'un froufrou de soie remué. « Allons, prends ton chapeau, mon chéri. » Irrité par ce sourire, par ces toilettes, par ce parfum, exaspéré par l'attente, souvent je la traitais durement. « Où as-tu été? Dans quelle bouche t'es-tu traîné? Dis, dans quelle bouche? » « Oh, si c'est une scène, merci. Je m'en vais, bonsoir. » Moi qui ai eu toutes les peines du monde à me rendre libre pour te retrouver. Alors, tendant les poings, tous les muscles crispés, je hurlais. Eh bien, va-t'en, va-t'en au diable, et ne reviens jamais, jamais !»